Chapitre 4e, suite de l'histoire de la belle Corisande, princesse de Grenade. Au cri de ma nourrice, mes femmes se hâtèrent d'accourir. Mon vieil écuyer, qui avait accompagné mon père dans 100 batailles et qui était expert en chirurgie, sonda ma blessure. Par bonheur, le poignard avait glissé, et ce coup, qui me sauva l'honneur, ne put m'ôter la vie. Un mois après, j'étais complètement guéri. Je ne tardai guère à reprendre mes anciennes habitudes et à courir gaiement dans les montagnes du voisinage. Mais l'expérience m'avait rendu plus prudente, et je ne me hasardais plus sans une suite nombreuse et capable de me défendre d'un coup de main. Cette précaution n'était pas inutile. Donc Géphéros ne fut pas plutôt instruit de ma guérison qu'il reprit ses projets criminels et résolut de satisfaire sa passion à tout prix. Un jour, comme je me promenais à cheval dans la vallée que domine le château de Villafuerte, je tombai dans une embuscade et je vis mon cousin lui-même s'avancer à ma rencontre avec une suite de cavaliers armés. À cette vue, je tournai bride et courus au galop vers le château pendant que les plus fidèles de mes serviteurs se faisaient tuer pour protéger ma fuite. Je venais à peine d'entrer dans le château et la garde levait le pont-levis lorsque Don Géphéros, monté sur un cheval plus vite que le vent, arriva sur le bord du fossé. Heureusement, j'étais déjà hors d'atteinte et le cruel ne put assouvir sa fureur que sur deux ou trois de mes braves amis qui n'avaient pas eu le temps de rentrer dans le château. Leurs têtes furent coupées et plantées sur des pieux en face de mes fenêtres. Ce spectacle horrible, qui aurait dû effrayer la garnison de Villafuerte, ne fit qu'animer davantage son ressentiment, et tous mes serviteurs firent serment de mourir plutôt que de se rendre. Cependant, Don Géphéros fit venir des troupes nombreuses et commença le siège. Par malheur, les vivres manquaient, et après quelques jours, la faim allait nous forcer de nous rendre. Pour moi, résolu à tout plutôt qu'à tomber entre ses mains, je lui fis dire que le jour de son entrée au château serait celui de ma mort. Cette menace l'effraya. Il savait qu'elle n'était pas vaine et craignait de perdre le fruit de ses efforts. Il essaya de me rassurer, mais je connaissais trop sa perfidie pour avoir aucune confiance en ses promesses. Il eut de nouveau recours à la ruse. Sur ces instances, la princesse Doralis, sa sœur, vint elle-même de Grenade à Villafuerte et m'offrit de me prendre sous sa protection. Je ne pouvais plus hésiter. La garnison du château, qui mourait de faim, reçut avec joie l'offre d'une capitulation qui sauvait l'honneur et la vie de tous mes amis, et je consentis à suivre ma cousine. Le lendemain, nous partîmes pour Grenade sous l'escorte de Géphéros lui-même. Je dois lui rendre cette justice, soit qu'il eut quelque remords de sa conduite, soit qu'il espérât me la faire oublier. Je ne reçus de lui que les témoignages de l'amour le plus passionné et le plus respectueux. Le jour, il chevauchait à côté de la princesse Doralis et de moi, obéissant au moindre bruit comme un vrai chevalier. La nuit, il se retire avec respect, et content de veiller à notre sûreté, il me laissait seul avec la princesse dans notre tente. Pardonnez-moi, seigneur chevalier, d'entrer dans de si longs détails, mais... Par les apôtres Jacques et Jean, madame, interrompit Roland. Le ciel pourrait tomber sur ma tête et Mahomet entrer dans Paris la lance sur la cuisse avant que j'eusse fini d'écouter les attentats de cet infâme Géphéros. Ah, ma bonne Durandal, réjouis-toi, avant peu tu auras de la besogne. Enfin, reprit Corisande, nous arrivâmes à la cour du roi Stordilan. Mon oncle, prévenu d'avance, nous attendait. Il m'ouvrit les bras avec tendresse en souvenir de la sœur qu'il avait perdue et dont j'étais, dit-il, la vivante image. Bientôt les fêtes et les tournois se multiplièrent à la cour de Grenade, et j'oubliais dans les plaisirs de mon âge les malheurs dont j'étais menacé. Hélas, cette tranquillité fut courte. Don Géphéros, plus amoureux que jamais, essaya de nouveau de vaincre ma résistance, mais je ne le voyais qu'avec horreur. Le souvenir de sa première perfidie et de la mort de mes amis ne pouvait sortir de mon cœur. C'est en vain que pour me plaire il disputa le prix de l'adresse et du courage dans les tournois, et qu'il m'offrit de partager avec lui le trône d'Estramadur, où sa naissance l'appelait. Je demeurai inflexible. Peu à peu, son ancienne fureur reparut. Indigné de se voir repoussé, il tenta de nouveau la violence, mais j'étais sur mes gardes, et je demandai protection au roi Stordilan. Cet oncle vénérable essaya vainement de fléchir mon ressentiment. Le plus cher de ses vœux, disait-il, était de m'unir à son fils et de me garder ainsi près de lui. Doralis, gagnée par son frère, me supplia de ne pas pousser au désespoir un cœur si orgueilleux et si vindicatif. Cependant, tous deux continuèrent à me protéger et me conservèrent leur amitié. Enfin, lassé de mes dédains, Gaphéros fit une dernière tentative pour m'enlever, qui ne réussit pas, et partit pour la Mecque. Il allait déposer ses vœux sur le tombeau de Mahomet et peut-être lui demander l'oubli d'un amour malheureux. Je me crus délivré de ses persécutions, mais le ciel, acharné à me poursuivre, ne permit pas que mes malheurs fussent sitôt terminés. À peine avait-il quitté les côtes d'Espagne, lorsque le prince Ferragus, fils du roi Marsile, parut à la cour de Grenade. Vous n'ignorez pas sans doute que le vieux Marsile règne sur les royaumes de Portugal, de Castille et de Léon, d'Aragon et de Valence, et que Saragosse est sa capitale. Longtemps auparavant, il avait essayé la conquête de Grenade, mais Stordilan, alors dans la force de l'âge, et Gaphéros, à qui l'on ne peut refuser l'honneur d'être l'un des plus vaillants chevaliers de l'univers, défirent en deux batailles l'ambitieux Marsile et le renvoyèrent en Aragon, privé de la moitié de son armée. Depuis lors, la paix se fit entre les deux rois et dura plusieurs années. Marsile, allié des Maures d'Afrique contre l'invincible empereur Charlemagne, fut battu avec abrament sous les murs de Paris et se trouva trop heureux de revenir en Espagne sans être poursuivi. La renommée nous a appris, seigneur chevalier, la part glorieuse que vous aviez prise à cette guerre. C'est surtout à votre courage que Charlemagne a dû la défaite des Maures. Le bon Roland rougit en recevant cet éloge. Ferragus vint donc à Grenade pour solliciter l'alliance de mon oncle. Il avait appris, de bonne part, disait-il, que Charlemagne allait passer les Pyrénées avec une puissante armée et que tous les rois sarrasins étaient également menacés. Stordilan, sans accepter l'alliance, fit l'accueil le plus honorable au fils de Marsile et donna des fêtes en son honneur. Dès le premier jour, Ferragus ne put voir ma cousine Doralis sans en être profondément épris. Il demanda sa main au roi Stordilan, mais ma cousine, effrayée de la laideur et de la férocité de son amant, refusa d'y consentir. Il faut dire que Ferragus, qui a la taille et la force d'un géant, la voix d'un taureau et une barbe au poil épais et mal peigné, effraie tous ceux qui l'approchent. On a peine à soutenir son regard, et Doralis, toute tremblante, résolut de prendre la fuite plutôt que d'épouser ce brigand. Stordilan, affligé de cette résolution, mais trop attaché à sa fille pour forcer ses inclinations, combla Ferragus de présents et de marques d'amitié, mais en même temps, il lui déclara l'immuable résolution de Doralis en ajoutant par politesse qu'elle désirait garder éternellement le deuil de son premier mari, Mandricar, roi de Tartarie. « Quoi ? » s'écria Roland étonné. « La princesse Doralis est la veuve de ce brave Mandricar, qui fut tué en combat singulier sous les murs de Paris par votre cousin Roger ?»« Oui, » répliqua Corisande. « Doralis, après la mort de son mari, quitta le camp d'Agramant et rentra dans Grenade. »« Pardonnez-moi cette interruption, » dit Roland. « Ferragus ne chercha-t-il pas à se venger des dédains de votre cousine ?»« Hélas, oui, seigneur, » reprit Corisande, « et par la plus noire perfidie. Profitant de l'absence de Gaphéros, il revint dans le royaume de Grenade avec une armée innombrable et livra bataille à mon oncle. Le roi Stordilan, qui avait été dans sa jeunesse l'un des plus braves chevaliers du monde et qui avait lutté sans désavantage contre votre propre père, fit des prodiges de valeur malgré ses cheveux blancs et renversait tout devant lui lorsqu'il rencontra dans la mêlée le redoutable Ferragus. Celui-ci le perça d'un coup de lance, le renversa de cheval et lui coupa la tête. Cette tête vénérable promenée de rang en rang sur une pique aux yeux des Grenadins leur fit perdre courage et ils cherchèrent leur salut dans la fuite. À ce triste souvenir, de nouvelles larmes coulèrent des yeux de la belle Corisande. Enfin, elle fit un nouvel effort pour achever son récit. Le siège dura 2 mois, et Ferragus jura de faire pendre tous les habitants s'ils attendaient pour se rendre le jour du dernier assaut. Cette menace mit fin à leur résistance, et Doralis tomba entre les mains du vainqueur. Le même soir, déguisé et suivi seulement de quelques femmes et de quelques-uns de nos plus fidèles serviteurs, je m'échappai par une des portes de la ville qui était mal gardée, et je résolus d'aller en France et de demander à l'empereur Charlemagne du secours contre ce brigand impie qui a tué Stordilan et enlevé la malheureuse Doralis. Ferragus, averti trop tard de ma fuite, envoya sur mes traces une troupe de cavaliers. Ce sont ceux-là même qui nous ont attaqués cette nuit et de votre bras invincible nous a délivrés, Seigneur Chevalier. » Ainsi finit l'histoire de la belle Corisande.